J'aimerais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je prie que cela vous touchera de la même manière que cela m'a touché. Il y a plusieurs choses à dire, mais je prie que nous pourrions rester focalisés sur sa parole. Si vous avez votre Bible, on peut lire dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. On va le lire ensemble. Humiliez-vous donc sous la puissance de la main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances seront imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons ici un défi. Un défi pour nous individuellement, mais aussi un défi pour nous en tant qu'Église. Et nous voulons saisir ce que Dieu nous dit dans notre vie et dans notre comportement chrétien, tels qu'ils sont liés à notre foi. Nous pouvons avoir des idées préconçues à propos de la vie de l'Église, des idées préconçues dans la façon d'être humble. Nous avons juste besoin de revenir à Dieu et de lui demander ses conseils pour nous. Et je me souviens quand j'étais enfant et ma grand-mère, et je lui ai demandé: que devons-nous faire pour aller au ciel? Et elle a dit: il faut être bon, il faut aller à l'église, il faut prendre la communion, et quand tu feras cela, tu iras au ciel. Et je lui ai dit: oui, ça c'est pour tout le monde. Oui, si tu es bon, si tu vas à l'église et tu prends la communion, alors c'est bon. Et je lui ai dit: oui. Et j'avais un ami à l'église protestante, est-ce qu'il ira aussi au ciel? Et elle a réfléchi. Et elle a dit: oui. Oui, il ira, mais peut-être pas au même endroit que nous. Bénissons ma grand-mère qui n'est plus parmi nous. Mais cela montre qu'on peut avoir des idées préconçues. Et je ne sais pas si ce qu'elle a dit était rempli d'humilité, mais ce n'est pas à moi de la juger. La lettre de 1 Pierre était une lettre circulaire destinée aux personnes de l'Asie mineure, touchant à plusieurs sujets quand on lit, sur l'espoir, sur le salut, sur notre position, sur la soumission, sur la dignité. Et comme dans un sandwich inséré au milieu, il y a toujours la question de la souffrance et les conséquences de nos comportements et notre façon de nous affermir lorsque nous faisons face à des épreuves. Donc le but, c'est quand même de nous instruire avec les conséquences pratiques de notre vie chrétienne, mais aussi de nous instruire à comment nous comporter et comment nous encourager. Parce qu'il termine par dire, je vous ai écrit brièvement, vous exhortant que la grâce de Dieu est affermie. Parce que par l'humilité, la persécution, nous avons la grâce de Dieu. Plus tard, je vais vous parler de la persécution.
Dealing with Christians who are suffering under persecution. And
there is Je vais aussi vous parler de la mission Porte Ouverte, parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans des pays où est touchée la persécution. Et j'aimerais adresser à tous, à ce corps de l'Église, parez-vous d'humilité les uns envers les autres. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour être parés d'humilité ? Et que veut dire être paré d'humilité ? Et moi, j'aime bien venir à l'église, et j'espère que vous aussi, et que ce n'est pas un fardeau pour vous. Mais nous avons nos façons de faire, nous avons nos traditions, et parfois, j'envie, il m'arrive d'envier les chrétiens dans certains pays où ils sont des minorités, où c'est limité. Les pays où il y a très très peu de chrétiens, quand ils se rassemblent, ce n'est pas comme ici. Ce n'est pas comme chez nous. Ils se rassemblent. Les hommes commencent à danser pendant la louange. C'est très joyeux comme ambiance. Il n'y a pas une demi-heure de prédication. Ensuite, ils partagent un repas ensemble. Et ensuite, ils font la sieste. Ils se réveillent et ils louent encore le Seigneur. C'est toute la journée. C'est toute une communauté, et lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils louent le Seigneur, ils partagent, il n'y a pas de notion de temps. Nous devons penser que notre façon de faire le samedi matin n'est pas la référence. La forme de notre service du dimanche matin, qui fait partie de notre Église, mais la chose la plus importante, c'est la présence de notre Seigneur parmi nous, la présence du Seigneur Jésus et la fidélité de notre Seigneur. Et je vais aussi parler de la relation que nous avons entre nous. L'église de Tikos n'a pas de dénomination en tant que telle. Nous ne sommes pas focalisés sur la dénomination. Si je devais demander quelle est notre dénomination, je serais surpris si vous en trouviez une. Ce n'est pas une question juste d'être strict en se rassemblant ensemble tous les dimanches et après de retourner. Mais il y a la fraternité. Et nous voulons la fraternité. Pourquoi ? Parce que nous voulons remplir le cœur de Dieu quand nous nous réunissons tous les dimanches matins. Nous voulons le louer, nous voulons l'aimer. Jésus a dit : je vais construire mon Église. Et dans Corinthiens, il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et chacun d'entre vous est une partie de ce corps. » Quand nous venons ici, Nous ne pouvons pas être indifférents les uns aux autres. La vie de l'Église, nous faisons partie de la vie d'Église intégralement, chacun d'entre nous fait partie de cette vie de fraternité. Parfois, je me demande si nous sommes influencés par nos traditions. Alors que nous nous rassemblons ici, sommes-nous influencés par des schémas ? On vient ici le dimanche matin. Il y a le prédicateur qui est devant, qui est le professionnel, et il est... Ça devrait être plus que cela. Lorsque j'ai visité, j'aime bien les monuments et les choses anciennes. Et avec mon épouse Cherry, nous avons visité des églises du XIIe siècle en Italie. Et j'ai été interpellée par leur façon de construire l'église, c'est-à-dire que le prédicateur était tout devant, c'était le lieu saint tout devant, et le prêtre était tout devant, dans le lieu saint, et il y avait une séparation avec ceux qui assistaient à la cérémonie. Et nous ne voulons pas que ça soit de la sorte. Nous voulons être ensemble, nous voulons être unis. Et ce qui nous unit, c'est avant tout notre relation avec Jésus. C'est notre point de départ. Si nous n'avons pas une relation privilégiée avec Dieu, ça ne marchera pas. Alors que nous venons, étant remplis de cette relation à Dieu, on se rencontre, on s'accepte, et c'est aussi notre appréciation les uns des autres. Et à ce moment-là, il n'y a plus de place pour des pensées telles que je peux juger ou j'ai des attentes particulières ou même des trahisons. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. Nous venons ensemble parce que nous voulons venir ensemble pour louer Dieu et pour l'entendre, pour rencontrer Dieu. Notre foi en Jésus, c'est la base de notre vie d'Église. Et notre foi nous aide dans cette fraternité. Ce que je veux dire, pas de relation, pas de fraternité. Si nous n'avons pas de relation avec Jésus, cette relation verticale avec Dieu, si elle est absente, la relation horizontale les uns avec les autres dans la communauté n'existera pas non plus. La fraternité, c'est un moment où nous nous retrouvons ensemble. Aussi avec nos cœurs ouverts au Seigneur. En parlant de la vie d'Église, que veut dire les relations? Puisque nous sommes si différents. Ici à Tikos, nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour rencontrer des personnes du monde entier. Nous sommes juste ici à Strasbourg. La personne qui s'assoit à côté de vous peut être quelqu'un d'une culture différente. Pas de tradition, pas de culture, il n'y a pas de personne supérieure aux autres. Et dans le livre des Actes, je pense que c'est le chapitre 16, et quand Paul implante une église, qui étaient les premiers? Lydie, une dame très riche, dans ses habits violets, et une esclave qui a été libérée du démon.
Who was
et la personne qui gardait la personne en prison. Imaginez-vous, quel est ce groupe composé d'une dame très riche, d'un esclave et un soldat? Donc ces personnes-là étaient les premières à faire partie de l'église que Paul a implantée. C'était le cœur de l'église, de la première église. Et ils devaient se rassembler et s'intéresser les uns aux autres. Ils devaient s'accepter. Et ils devaient prendre soin les uns des autres. On ne peut pas prétendre à la fraternité si nous ne sommes pas prêts à aller vers l'autre. C'est même parfois difficile pour moi. Je sais que mon privilège et mon devoir, et c'est une bénédiction, d'aller vers l'autre. Donc, en fin de compte, nous sommes appelés à aller vers l'autre. Nous pourrions être des bénédictions les uns pour les autres dans différentes façons. Des personnes sont seules, des personnes ont des besoins. Juste des personnes à la porte pour faire l'accueil. Si vous êtes disponible, c'est une autre bénédiction. On peut aussi prier pour les autres, partager des moments. Il y a des besoins dans cette église. Il y a des personnes en difficulté, il y a des personnes qui souffrent. D'autres portent des fardeaux. Est-ce qu'ils sont prêts à les partager? Il y a plusieurs façons d'être une bénédiction et de servir. Et servir dans l'église est une attitude de cœur. Revenons au chapitre de livre de Pierre où il est écrit « Revêtez-vous d'humilité ». Et la fierté, c'est encore quelque chose qui nous touche. Et on peut trouver de la fierté dans beaucoup de circonstances, dans la politique, quand les politiciens parle, il y a beaucoup de « je peux »,« je fais ci », »,« je fais ça ». La fierté, c'est dans toutes les choses que nous disons, que nous faisons, qui va nous mettre en avant par rapport aux autres. Je sais mieux que toi, laisse-moi te dire. Lorsque nous nous rassemblons en tant qu'Église, il n'y a pas de place pour la fierté. Il faut mettre cette fierté de côté. Il faut s'en débarrasser même. Parce que la fierté nous empêche de voir notre frère ou notre sœur tel qu'il ou elle est vraiment. La fierté est même un handicap qui peut nous aveugler. Et va produire un manque d'intérêt envers l'autre. Mais dans l'humilité, on considère que l'autre est meilleur que nous. Parce que la fierté peut aussi tuer l'amour, tuer les relations, fait souffrir les autres. La fierté est destructive, surtout en ce qui concerne les leaders de l'Église. Et Pierre a parlé de la position et du comportement des leaders. On peut cacher la fierté lorsqu'on a une position importante dans l'Église, pour un moment. Mais l'effet destructif sera quand même là. Donc il est intéressant de voir Pierre qui relie cette notion de, d'épreuve et de fierté. Il s'agit d'un test de notre foi. La persécution peut être une conséquence de notre manque d'humilité. On peut regarder les églises qui souffrent. Il y a toujours des oppositions dans notre vie, on n'a pas besoin d'être persécuté. Et nous avons tendance à relier l'opposition à la persécution. En tant qu'occidentaux, nous n'avons pas toujours idée de ce que les églises persécutées traversent et ce qu'ils doivent endurer jour après jour au quotidien. La persécution peut prendre différentes formes, pas seulement des personnes qui sont tuées à cause de leur foi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler au Burkina au mois d'avril, donc il y a eu cette attaque où 6 personnes sont venues et ont demandé aux personnes de renoncer à leur foi. Et 6 personnes ont refusé de renoncer à leur foi et elles ont été tuées. Et c'est quelque chose qui arrive constamment. Et si on regarde à cet harcèlement et cette pression dans les pays musulmans, notre sœur Bassent vient d'Égypte et parlez-lui, demandez-lui comment les chrétiens vivent leur foi en Égypte. On ne se rend pas toujours compte. Selon l'association Porte Ouverte, il y a la Corée du Nord. Les personnes sont punies dès qu'ils tiennent une Bible. Comme vous voyez, comme vous connaissez peut-être, donc il y a cette philosophie là-bas dans ce pays où il est accepté que l'homme a la réponse à tout. Donc l'homme sait tout, l'homme peut tout faire, il n'a pas besoin d'aide divine ou supérieure. Et dès que l'on découvre une Bible dans la maison de quelqu'un, les personnes sont arrêtées, sont torturées et ils peuvent même être tués. Juste à cause du fait de posséder une Bible. En Corée du Nord, il y a peut-être 300, 400 000 chrétiens. Comment peuvent-ils vivre la fraternité? Comment peuvent-ils se rassembler? Ils ne peuvent même pas se rencontrer. Ils se rencontrent en cellules. Plus souvent en famille. Et dès que quelqu'un est arrêté, peut-être qu'ils vont dire, mais ils savent qu'ils ne parleront pas d'autres chrétiens qu'ils connaissent. Donc, porte ouverte et en contact avec eux, ils prient. Mais leur situation est très, très difficile. Ils ont très, très peu d'espoir, parfois pas d'espoir. C'est ce pays, je pense, qui peut illustrer, qui peut être un exemple pour nous. Comment vivre la foi? Comment vivre en fraternité? Vous pouvez me dire, oui, peut-être que ça ne s'applique pas en Occident. Mais il est vrai que on ne fait pas face ici non plus à de telles persécutions de ces façons-là. Et nous avons un grand défi ici, en Occident. Et je lisais un livre d'un auteur qui s'appelle Os Guinness, un auteur chrétien. Et il utilise le terme « impossible ». Donc il faisait référence à quelqu'un au XIe siècle qui combattait pour la foi chrétienne. Et les personnes le décrivaient comme une personne impossible parce qu'il allait contre la croyance de la société. La crise en Occident n'est pas moindre que les épreuves dans ces pays et auxquelles font face les chrétiens. Donc la faiblesse de la foi chrétienne. La faiblesse de la foi chrétienne dans notre société, il y a moins de valeurs, l'acceptation de la foi, l'évolution de l'humanisme, et notre liberté aussi, d'être témoin de notre foi, est aussi mise en question, remise en question. Donc des oppositions à partager la parole, des oppositions à notre foi. Cette culture-là, nous y sommes confrontés tous les jours, la baisse des valeurs, la faiblesse de notre foi. Je me souviens qu'une personne évangélique chinoise, et il a dit, je te mets au défi de prêcher la parole de Dieu dans ton pays où que tu te trouves. Et tu vas faire face à l'opposition. Ce n'est pas surprenant. C'est normal, il n'y a pas d'église qui ne fait pas face à des oppositions. Ne soyons pas surpris par ces oppositions, mais nous devons nous référer à la Bible pour faire face à ces oppositions. Et nous voulons être unis dans la foi. Unis dans la foi. Où se trouve la réponse? J'aimerais dire que la réponse se trouve dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Pierre fait référence à Paul en disant que l'essentiel, c'est Jésus. Jésus était quand même rempli de douceur. Il ne nous a pas ramenés au salut. Et ensuite, il est parti. Non, c'est dans la continuité. Et c'est ce Jésus sur lequel nous restons focalisés. Et c'est lui qui nous aide au milieu des épreuves. Et j'aimerais aussi vous partager ce témoignage d'un chrétien de la Corée du Nord. Où est-ce que Dieu est vraiment suprême? Ou dans ce pays où tout est interdit, où on ne peut pas avoir de la fraternité dès qu'il concerne la foi chrétienne. Et dans ce pays où on peut être puni juste parce que nous croyons en Dieu, où est la liberté dans des situations pareilles? Cela peut sembler contradictoire, mais parfois ce sont des situations tragiques qui nous permettent de voir que Jésus est suprême. Et moi je crois que Jésus est suprême, même en Corée du Nord. Donc cet homme qui a été arrêté parce qu'ils ont vu une Bible dans sa maison. Et un témoin a dit qu'il a été battu en prison. Et des prisonniers qui ont été relâchés ont témoigné que sa foi a été déformée et peut-être qu'il allait mourir. Et comment est-ce que Dieu peut laisser un de ses disciples être dans une situation pareille? Donc un ami à lui a dit, en ce qui concerne la foi, cet homme a dit qu'un jour, je mourrai pour le Seigneur. Tous les chrétiens de mon pays, en Corée du Nord, c'est-à-dire, vivent avec cet esprit d'être un martyr. Mon ami savait qu'un jour il allait être attrapé et qu'il devait être affermi dans la foi, dans sa foi. Je suis convaincu qu'il peut prendre cette souffrance parce qu'il se rappelle toujours de la joie qu'il a en Christ. Les chrétiens qui souffrent en Corée du Nord vivent vivent leur foi avec le Jésus qui est suprême. Il n'y aurait pas beaucoup de choses à ajouter à ce témoignage. Je vais terminer en disant: restons centrés sur Christ tous les jours, dans nos activités quotidiennes, dans notre approche à Dieu. Lorsque nous célébrons ensemble, lorsque nous nous réunissons, louons Dieu dans toutes les circonstances, dans les épreuves, dans les problèmes que nous avons, que nous aurons. Ne restons pas focalisés sur le problème ou la situation, mais sur Christ. Je vais prier. Père, nous voulons te remercier pour Jésus. On ne te remerciera pas assez pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait pour nous, pour Jésus qui est mort. Tu as fait de nous ton peuple aujourd'hui, un peuple qui vient dans ta présence. Tu nous permets d'être un peuple qui peut te louer avec la liberté. Garde-nous de péché, mais revenons à toi dans la fraternité, de se réjouir ensemble, d'étendre nos mains vers les autres et de dire: nous voulons être un en Jésus. Nous faisons tous partie de ton corps. Mets dans nos cœurs ce qui est sur ton cœur. Guide-nous, Seigneur. Amène-nous plus loin dans ta présence et permets-nous d'être une église qui brille, qui est un témoignage, une église où les personnes peuvent, en arrivant ici, te trouver